Alors, on va reprendre ce matin notre étude des actes des apôtres. La dernière fois, on avait vu la conversion de Saul de Tarse. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne sont pas très au fait des actes, Saul de Tarse était un juif religieux qui rejetait le Messie d'Israël et qui s'était mis à persécuter donc tous les chrétiens, tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Mais en allant à Damas, sur le chemin de Damas, Jésus lui est apparu. Et là, toutes ses convictions ont volé en éclats. Tout ce qu'il était, ses certitudes ont basculé. Et puis, il a compris qui était Jésus-Christ. Il est resté 3 jours aveugle, 3 jours pendant lesquels il a pu réaliser son erreur jusqu'à présent. Et après qu'un disciple lui ait imposé les mains, il a recouvert la vue, et on va lire donc acte 9, 18 à 30, puisque Saul est devenu un chrétien, un vrai chrétien, un vrai disciple de Jésus. On va lire donc verset 18, acte 9, jusqu'au verset 30. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais, pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Et j'aimerais que l'on voit ce matin les signes d'une vraie conversion à Jésus-Christ. On vient de lire que les chrétiens avaient des doutes sur la personne de Saul. Ils se disaient « Attends, c'est celui qui était en train de nous persécuter et maintenant tu dis qu'il est chrétien ?» Ils ne le croyaient pas. Ils ne savaient plus trop quoi penser de Saul. Aujourd'hui, quand on regarde notre société qui est judéo-chrétienne, on peut aussi se demander « Mais qui est vraiment chrétien ? Qui n'est pas chrétien ?» Et si on posait la question « Comment reconnaître un chrétien ?» on aurait toutes sortes de réponses. On entendrait, c'est quelqu'un qui va à la messe, hein. C'est quelqu'un qui fait tout à l'Église catholique, hein. Voilà, baptême, communion, consécration, confirmation, et puis mariage, extrême onction. C'est quelqu'un qui croit en Dieu, un chrétien. C'est quelqu'un qui essaye de ne pas mentir, de ne pas voler. C'est quelqu'un qui prie Jésus, Marie ou les saints. Comment reconnaître un chrétien? Comment ces premiers chrétiens, eux, à leur époque, pouvaient être sûrs de Saul de Tarse? Dieu nous a donné dans la Bible les moyens de reconnaître un enfant de Dieu. Jésus a enseigné que nous pouvons reconnaître un arbre à ses fruits. Donc, il y a des fruits qui manifestent si une personne est vraiment un enfant de Dieu, une enfant de Dieu ou pas. On pourrait croire par exemple que la gentillesse serait le signe d'un vrai christianisme authentique. Et c'est vrai, un chrétien devrait être gentil, devrait être aimable, etc. Mais il y a aussi plein d'hommes qui sont gentils et qui sont pas du tout chrétiens, qui sont loin de la foi. Mais la parole de Dieu nous montre quels sont les fruits qu'on est en droit d'attendre d'un vrai enfant de Dieu. Et on peut voir que Saul, si on regarde sa vie, possédait ses fruits une fois qu'il s'est converti à Jésus-Christ. Je me souviens à ma consécration qui était ici, donc il y a 10 ans maintenant, on m'avait posé une question. C'était Didier Zilberstein, pour ne pas le nommer. Il m'a dit, comment, selon l'épître de Jean, peut-on reconnaître un vrai chrétien? Quels sont les signes, selon l'épître de Jean? Et j'étais un peu coincé, parce que j'avais pas vraiment fait la liste, etc. Alors, je lui ai cité des choses qui me paraissaient évidentes pour reconnaître un vrai chrétien. Mais c'était pas vraiment posé sur l'épître de Jean. Et j'aimerais ce matin qu'on prenne justement les actes, donc ce qu'on vient de lire, ce texte, mais aussi l'épître de Jean, et regarder le parallèle, et voir que, on trouve 5 fruits qui nous montrent si quelqu'un est un vrai chrétien. Quels sont ces 5 fruits? Et c'est intéressant pour chacun, puisque on a tous besoin de savoir ça, comment reconnaître un vrai enfant de Dieu, ou comment savoir si soi-même on est enfant de Dieu. Le premier fruit, c'est la foi au nom du Fils de Dieu. Saul ne croyait pas en Jésus-Christ avant d'avoir emprunté le chemin de Damas, mais ensuite il avait foi en Jésus-Christ. Alors ça semble évident, mais ça ne l'est pas. Pas forcément. Parce que tout dépend ce que l'on veut dire quand on parle de la foi au Fils de Dieu. Il y a aujourd'hui 2 milliards de personnes qui se réclament de la foi chrétienne. Jésus-Christ. 2 milliards, c'est énorme. Mais est-ce qu'il y a 2 milliards de personnes qui ont la foi selon la parole de Dieu, la foi en Jésus-Christ? Regardez 1 Jean 5, versets 12 et 13. 1 Jean 5, 12 et 13, vous avez une partie du verset qui est derrière. Il est dit, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et on a ici la foi dans le nom du Fils de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est réellement un enfant de Dieu? C'est d'abord la foi au nom du Fils de Dieu, c'est-à-dire la foi en la personne de Jésus-Christ. Et c'est très important de comprendre ce que cela signifie. Avoir foi en quelqu'un, quand vous avez foi en quelqu'un, ça veut dire que vous avez confiance en cette personne. Vous lui faites confiance. Et c'est une question de confiance en Jésus-Christ. C'est pas simplement la foi de croire que Jésus a existé il y a 2000 ans. C'est pas même la foi de croire qu'il y a les paroles de Jésus qui sont pleines de sagesse, et il a dit plein de choses vraies. C'est pas simplement de croire, Jésus est le Fils de Dieu. Mais c'est placer sa confiance dans la personne de Jésus-Christ pour son salut éternel. C'est ça, avoir foi. Placer sa confiance en Jésus-Christ. Est-ce qu'on a confiance que le nom de Jésus nous suffit pour être sauvé éternellement? L'apôtre Jean dit ici, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Sous-entendu, la vie éternelle. C'est-à-dire le pardon de ses péchés. C'est-à-dire la certitude d'aller au ciel avec Dieu. Si je vous pose la question, comment avoir la vie éternelle, comment aller au ciel, beaucoup répondraient, il faut faire du bien, il faut essayer de ne pas pécher, il faut aimer son prochain, il faut peut-être aller à l'église quand même, ou dans une église. Mais en fait, cette question, elle trouverait tout autant de réponses qu'il y a de religions. Peut-être dans toutes les religions, le point commun, c'est qu'on va retrouver l'idée de la morale. Il faut être moral, quoi. Il faut avoir de la morale, il faut être juste dans son cœur, faire des choses qui sont justes. Et puis on va retrouver des particularismes à chaque religion. la prière 5 fois par jour, un pèlerinage, une confession, un baptême, une prière, de la méditation. Voilà, tous des particularismes. Comment avoir la vie éternelle? Quelle est la réponse que la Bible donne? La Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie éternelle. Dieu ne nous dit pas qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Il dit que si on a le Fils, si on possède le Fils, on a la vie éternelle. Nous sommes sauvés. Alors la question qui vient immédiatement, mais c'est comment avoir le Fils? Comment recevoir le Fils? Il faut faire confiance au Fils. Avoir foi, c'est faire confiance au Fils de Dieu. Et on comprend toute la valeur de la foi dans le nom du Fils de Dieu. C'est pas avoir foi dans le Fils de Dieu et foi en plein d'autres choses. Foi dans mes œuvres, foi dans un pèlerinage, foi dans mes prières, foi dans... Non, c'est avoir foi entièrement, uniquement dans le Fils de Dieu pour mon salut. La Bible est formelle. Elle dit, nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs et du fait de nos péchés, elle dit, nous sommes tous perdus. Nous avons transgressé la loi de Dieu. Il suffit de prendre un commandement, un seul, ça suffit. Tu ne convoiteras point, ça veut dire, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point les biens de ton prochain, tu ne convoiteras point le confort de ton prochain. Simplement ce commandement, eh bien on l'a tous transgressé. Et ça montre simplement un commandement qu'on est tous coupables d'avoir transgressé la loi de Dieu. Mais maintenant on peut prendre un autre commandement, tu ne mentiras point. Même un petit mensonge. Et alors pour certains se disent, j'ai menti, c'est vrai, j'ai dû mentir quand même un peu dans ma vie. Pour d'autres, j'ai menti des dizaines de fois. Et la Bible dit encore, tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tous les menteurs, un mensonge, là on est en période électorale, tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre. Si quelqu'un pouvait leur rappeler. Un commandement, et il y en a plein d'autres. Tous les commandements de Dieu que les hommes ont transgressés fait que nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés, la Bible nous condamne du fait de nos péchés. Mais, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Donc ça veut dire celui qui croit au nom du Fils de Dieu, celui qui place sa confiance en Jésus-Christ, il est pardonné. Il n'a pas besoin de se racheter lui-même par des bonnes œuvres. Il n'a pas besoin d'ajouter des œuvres sur une balance imaginaire. Je dis imaginaire parce que elle n'est pas dans la Bible, cette balance. Donc il n'a pas besoin d'ajouter des œuvres. Il n'a pas besoin de faire quelque chose, mais il a simplement de faire confiance, de se reposer. Oui, Jésus peut sauver un homme entièrement parce qu'il est mort sur la croix. Quand il est mort sur la croix, il était en train de porter notre condamnation. Ça veut dire que Dieu a frappé Jésus-Christ pour que vous ne soyez pas frappés à cause de votre péché. Être chrétien, enfant de Dieu, c'est d'abord croire de tout son cœur dans cette vérité. C'est faire confiance entièrement, à 100% en Jésus-Christ. Ensuite, le deuxième fruit qui montre qu'une personne est vraiment chrétienne, c'est la confession que Jésus est venu en chair. On lit dans le livre des Actes, ne le prenez pas, je vais vous relire ces versets. Saul prêcha aussitôt dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. On lit encore, il démontrait que Jésus est le Christ. C'est fort pour quelqu'un qui s'était évertué à combattre Jésus-Christ. Voilà, 3 jours plus tard, il démontrait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il était contre Christ et puis il devint pour Jésus-Christ. Et un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui affirme croire en Jésus-Christ. Regardez 1 Jean 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et cette confession, c'est pas une confession secrète, mais c'est bien sûr une confession qui est publique. Confesser Jésus-Christ, le chrétien dit ouvertement « Oui, Jésus-Christ est venu en chair. Oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui, Jésus-Christ est mort pour mes péchés. » La foi, c'est quelque chose qui s'expose, qui sort, qui se montre. Jésus a dit « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération perverse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Donc, ça veut dire que tout chrétien, eh bien, peut venir à ce pupitre et témoigner de sa foi comme Arnaud l'a fait tout à l'heure. Peut dire « Oui, Jésus-Christ est mon Sauveur. Oui, il est le Fils de Dieu. » Il le dit, il le confesse de sa bouche. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de la timidité. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une crainte de le faire, un manque d'assurance. Mais l'enfant de Dieu va quand même, en tremblant, mais il va le confesser de sa bouche. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en lui le pousse à faire cette confession. C'est à l'intérieur, ça boue, il faut que ça sorte. Je suis enfant de Dieu. On voit que Paul s'est attiré de l'opposition. On a voulu le tuer plusieurs fois, mais ça ne l'empêchait pas de continuer à confesser Jésus-Christ venu en chair. Le troisième fruit, il est double. C'est que le vrai chrétien garde sa parole, très important, et il marche comme son Seigneur. Regardez 1 Jean 2, 5 et 6. Jean 2, verset 5. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole, et c'est quelque chose d'essentiel. Croire en Jésus-Christ, même le confesser de la bouche et ne pas garder la parole de Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Le vrai chrétien garde la parole de Dieu. Parce qu'il y a plein de religions dites chrétiennes qui témoignent même dans la rue, qui vont parler de Jésus venu en chair sans aucun problème, qui vont dire même avoir foi en Jésus et qui pourtant ne gardent pas la parole de Dieu, ne la serrent pas dans leur cœur. Garder la Bible, c'est la serrer dans son cœur, c'est la prendre au sérieux dans tout ce qu'elle dit, au mot près, chaque commandement, chaque détail. Dans l'Ancien Testament, Dieu disait aux Israélites, « Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » C'est pour cela que les Juifs, quand vous regardez le mur des Lamentations, sont avec les téphilines. Vous savez, ces petites boîtes dans lesquelles, eh bien, ils mettent les commandements de la parole de Dieu. D'abord, une petite boîte, ils l'accrochent sur le front avec des lanières, et puis une autre boîte qu'ils accrochent sur le bras gauche, de nouveau avec des lanières. C'est une manière de respecter de manière littérale le commandement qui est donné dans la Torah. Sur le front, parce que c'est le siège de la pensée, et chaque action démarre d'abord dans la pensée. Alors, eh bien, que la pensée soit déjà bien conduite par la parole de Dieu. Et puis le bras, c'est l'action en fait, hein, et que chaque action soit motivée, conduite par la parole de Dieu. C'est pour cela aussi que les Juifs mettent la mezouza, donc sur le montant de leur porte. On voit ça assez fréquemment, hein, partout dans les immeubles. À l'intérieur, de nouveau, les commandements de Dieu. pour dire, eh bien voilà, que ce foyer respecte la parole de Dieu, que la parole de Dieu doit régner ici. Lorsque Jésus est venu, lui qui était la parole incarnée, la parole vivante, il a confirmé l'importance de la parole de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Ce qui veut dire que l'attitude vis-à-vis de la Bible, à l'égard de la Bible, recueil des paroles de Dieu et des paroles de Jésus-Christ, c'est pas quelque chose d'anodin. Soit la Bible, elle est précieuse pour nous, c'est la vérité, nous la lisons, nous la suivons dans tout ce qu'elle enseigne, nous l'enseignons à nos enfants, nous en parlons autour de nous, nous la serrons dans notre cœur. Soit la Bible est secondaire, elle n'a pas une grande importance. C'est un livre intéressant, mais bon, il n'y a pas de quoi en faire un guide pour toute sa vie. L'important, c'est ce que l'Église dit. L'important, c'est ce que la tradition dit. L'important, c'est ce que je ressens. L'important, ce sont mes expériences avec Dieu. L'important, c'est la connaissance humaine, c'est la sagesse humaine, c'est la réflexion des hommes. Et la parole de Dieu est mise en deuxième position. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Où est la parole de Dieu dans la vie? Qu'est-ce qui est l'autorité dans notre vie? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Un vrai chrétien, il garde sa parole, il la serre dans son cœur. L'apôtre Jean dit, par le fait de garder la parole, par cela nous savons que nous sommes en lui. Donc le fait d'aimer la Bible, d'y être attaché, de la serrer dans son cœur, mais c'est quelque chose qui nous rassure et qui démontre, mais oui vraiment, je suis enfant de Dieu, j'aime la parole de Dieu, c'est un révélateur de notre amour pour lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mais il y a une conséquence, puisque juste après, Jean poursuit, il dit, verset 6, « Celui qui dit qu'il demeure en moi doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Et un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui marche comme son Seigneur. Saul de Tarse était violent vis-à-vis des chrétiens, et il va faire un demi-tour, il va complètement changer, il va être transformé, sa haine va tomber, ses réactions vont changer. Saul ne va plus être le même après sa rencontre avec Jésus, et un vrai chrétien, il change, il se met à marcher comme Jésus. Si la vie de quelqu'un ne change pas, s'il continue à mentir, s'il continue à tricher, à voler, à convoiter, à se saouler, alors, eh bien, il n'est pas enfant de Dieu. Il ne peut pas être enfant de Dieu, ce n'est pas possible. Le caractère de Jésus va transparaître dans la vie de quelqu'un qui a accepté Jésus dans son cœur. Parce qu'il y a l'Esprit de Jésus qui est en lui, et l'Esprit va le pousser, va agir, va vivre, va se manifester. Ce qui nous conduit au quatrième fruit. Un vrai chrétien ne pratique pas le péché, mais il pratique la justice. Jusqu'à présent, Saul persécutait les chrétiens, et d'un seul coup, il va arrêter. Et il va se retrouver plutôt être la victime des persécuteurs des chrétiens. Il va arrêter de faire du mal, et il va plutôt prendre des coups. Regardez 1 Jean 4, 7 à 10. « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. » comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Et un vrai enfant de Dieu, parce qu'il a reçu le Saint-Esprit, va être poussé à pratiquer la justice. Quiconque est né de Dieu, il dit, ne pratique pas le péché. Ça veut dire que il ne va pas pratiquer d'une manière habituelle, répétitive, le péché. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas tomber dans le péché, faire une chute dans le péché, mais il va pas rester dans le péché, continuer dans le péché. Si quelqu'un est dans le péché et ça lui fait rien du tout, ça va bien, il se sent bien, alors eh bien, il n'est pas enfant de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas troublé dans sa conscience, quelqu'un qui est heureux dans son péché, il n'est pas chrétien. Un chrétien, un vrai chrétien dans le péché, c'est comme un homme que vous mettez sous l'eau. Il peut tenir un petit peu, hein, mais au bout d'un moment, il aspire qu'à une chose, c'est remonter à la surface, prendre une bouffée d'air, hein, de l'oxygène, retrouver la vie, en fait, ce qui est sa vie. C'est la même chose avec un vrai enfant de Dieu. Même s'il tombe dans le péché, il n'est pas bien. Il va peut-être y rester un peu, mais non, c'est pas ça, c'est pas la vie que je veux. Moi, je suis pas fait pour vivre là. Et il veut sortir, il veut retrouver l'air libre, retrouver la relation avec son Dieu. Il aspire à la sainteté, une relation pure avec Dieu. Alors que le pécheur, lui, qui est sans Dieu, qui n'a pas foi en Jésus-Christ, dans l'eau, il est comme un poisson. Tout va bien. Il pêche encore, il se sent très très bien. Et puis en plus, tout le monde fait pareil. Alors il n'y a même plus de culpabilité, c'est normal. La conversion à Jésus-Christ, c'est une transformation qui nous conduit à sortir d'une vie de péché pour vouloir vivre une vie de sainteté, une vie avec Dieu. L'apôtre Jean nous dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice d'une manière habituelle, il n'est pas de Dieu. Et puis Jean ajoute, ni celui qui n'aime pas son frère. Et c'est ici le cinquième fruit. C'est que l'enfant de Dieu, il aime ses frères et sœurs. Que va faire Saul dès qu'il va retrouver la vue? Il va d'abord rester avec ses frères et sœurs, avec l'église de Jésus-Christ, et ensuite il va se rendre à Jérusalem, et il est écrit, il tâcha de se joindre aux disciples. Il avait envie d'être avec les enfants de Dieu, avec les disciples de Jésus-Christ. Et c'est encore là un trait qui permet de reconnaître un vrai enfant de Dieu. Le chrétien qui est né de nouveau, il a besoin d'être avec ses frères et sœurs. Regardez 1 Jean 3,14. Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et il n'est pas possible d'être un enfant de Dieu et de rester tout seul dans son coin, loin des autres enfants de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que, et même parfois, plus loin, hein, certains restent dans leur coin, disent qu'ils sont chrétiens et méprisent les enfants de Dieu et l'église du Seigneur. Ben, ce n'est pas possible. Jean nous donne ici une preuve, un test imparable. Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Et on ne peut pas l'expliquer, mais quand on se convertit à Jésus-Christ, quand on se convertit à Dieu, Dieu met un amour dans notre cœur pour tous ses enfants, pour les frères et sœurs. Et on ne peut pas faire autrement que de s'aimer. C'est en nous, c'est Dieu qui nous le donne. Ça implique de se pardonner, de se supporter, de s'entraider, de s'exhorter, de prier les uns pour les autres. Dieu nous pousse à l'amour. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir des divergences d'opinion, mais l'Esprit nous pousse toujours à l'amour, au pardon, au respect. La nature humaine, elle nous pousse au péché, mais Dieu nous pousse à l'amour. Jean dit, nous aimons les frères. C'est un constat. C'est comme ça. Nous aimons les frères quand nous sommes enfants de Dieu. Si un chrétien est isolé d'une manière ou d'une autre à cause d'un déménagement, et plusieurs l'ont vécu, d'être éloigné pendant longtemps des autres enfants de Dieu, ou bien parce que dans un milieu rural, j'avais un frère qui m'écrivait, ils sont au fin fond de la Bretagne, et c'est difficile de trouver d'autres enfants de Dieu, une communion, ou bien aussi peut-être parce que quelqu'un a pris ses distances, hein, ça peut arriver, eh bien il revient toujours vers ses frères et sœurs. Il revient toujours au milieu de l'Église de Jésus-Christ. C'est un besoin, c'est une nécessité pour son âme. Nous aimons les frères. Maintenant, si quelqu'un n'éprouve aucune attraction, aucun besoin d'être avec les enfants de Dieu, ben, on peut douter de sa foi réelle. Et je ne parle pas ici d'avoir simplement une église, comme il y en a des milliers, des millions, mais de vouloir être avec ceux qui ont ces fruits que nous venons de décrire. C'est-à-dire un désir d'être avec des chrétiens authentiques, des chrétiens qui placent leur confiance en Jésus-Christ pour leur salut. Des chrétiens qui confessent le nom de Jésus. Des chrétiens qui gardent la parole de Dieu, qui marchent avec lui, qui pratiquent la justice d'une manière habituelle. Il y a un désir d'être avec ces chrétiens-là. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Ou pire, si quelqu'un rejette les chrétiens nés de nouveau, alors vraiment, ce n'est pas la même famille. Un vrai chrétien aime les frères. Alors, on peut se faire une définition de ce qu'est un enfant de Dieu, mais il faut plutôt regarder, mais qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Qu'est-ce que la Bible dit? D'abord, c'est quelqu'un qui place sa confiance en Jésus-Christ, qui a foi dans le nom du Fils de Dieu, foi dans son sacrifice, foi en sa mort sur la croix, foi que le don de la vie de Jésus, ça suffit pour sauver. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ensuite, il faut regarder, est-ce que cette personne peut confesser Jésus-Christ de sa bouche, peut le dire ouvertement, n'a pas honte de lui. Et puis, il faut regarder si cette personne aime la Bible. Le chrétien garde la parole de Dieu. Il croit que la Bible, c'est l'autorité. L'autorité en matière de foi, de vie, c'est son pain, c'est son nectar, il en a besoin. Ensuite, il faut regarder si il marche avec Dieu, il change, il se transforme, il se repent. Il a envie d'être à l'image de Jésus-Christ et Jésus-Christ vit en lui. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne peut pécher parce que la semence de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, a été placée dans son cœur. Et enfin, l'authenticité de la foi, elle se voit à l'amour que la personne a pour les autres enfants de Dieu. Un chrétien aime les autres chrétiens. Les chrétiens des Actes doutaient de Saul. Et c'est donc Barnabas qui va prendre Saul et qui va témoigner. Il va dire, mais regardez ce qui s'est passé dans sa vie. Regardez maintenant comment il est en train de défendre Jésus-Christ. Regardez sa foi en Jésus-Christ. Ayez confiance, c'est votre frère. Et ça va être l'intégration de Saul. Ils vont l'accepter, j'imagine. Ils ont dû le serrer dans leurs bras et pleurer de joie de voir que Dieu avait sauvé Saul de Tarse. Alors, eh bien, qu'on puisse aussi peut-être s'examiner soi-même. Est-ce que notre foi est biblique ou bien on a une foi, mais une foi qui est religieuse, une foi qui vient de la tradition, peut-être héritée de nos parents, ou bien on a la foi qui vient des Écritures. Dieu dit clairement que le péché, ça conduit vers la mort. Le péché nous condamne. Si nous avons péché une seule fois, nous sommes condamnés. Il faut se repentir et croire au Fils de Dieu. Jean dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Est-ce que vous croyez au nom du Fils de Dieu? Est-ce que vous faites confiance au nom du Fils de Dieu pour pardonner vos péchés? On va s'incliner dans la prière.